Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un grand jour pour l'Église en Inde. Un martyr laïc converti a été béatifié. Le pape prie pour qu'il soutienne la foi des chrétiens, souvent mise à l'épreuve dans ce pays. En ce premier dimanche de l'Avent, Benoît XVI a exhorté les chrétiens à témoigner du salut par leur conduite face au bouleversement du monde et dans les déserts de l'indifférence et du matérialisme, compte rendu de l'Angélus du pape dès le début de ce magazine. Nous parlerons également des pèlerinages en cette année de la foi, et alors que les évêques français achèvent leur visite ad limina, vous entendrez le cardinal Barbarin, primat des Gaules. La nouvelle année liturgique a commencé ce dimanche, le 1er de l'Avent. Sur la place Saint-Pierre à Rome, la crèche de Noël est encore en chantier. Le sapin n'est pas encore arrivé, mais les fidèles venus participer à la prière de l'Angélus et écouter le pape comme tous les dimanches ont eu la joie d'y trouver un chapiteau de cirque et un manège à l'ancienne, installé à l'occasion du pèlerinage des gens du cirque, des forains et des musiciens de rue qui, tout au long du week-end, ont amusé les passants, les curieux et les nombreux touristes. Benoît XVI, qui les avait déjà accueillis samedi dans la salle Paul VI, a tenu à les saluer une fois encore.
De nouveau, infine, mio saluto ai vari esponenti del mondo dello spettacolo viaggiante.
Avant la prière de l'Angélus, le pape a expliqué le sens du mot avant, qui veut dire venu ou présence. La première venue de Jésus, c'est l'incarnation. La deuxième, son retour glorieux, à la fin des temps. Deux moments chronologiquement lointains, mais qui se rejoignent en profondeur. Entre les deux, le dessein salvifique de Dieu continue et il exige sans cesse l'adhésion libre et la collaboration des hommes. Et l'Église est comme une fiancée qui vit dans la mémoire de son Seigneur et dans l'attente de son retour. Une attente vigilante et active. Les lectures de la messe de ce dimanche tracent la ligne de conduite à suivre. Sobriété, prière, amour. La communauté des croyants est le signe de l'amour de Dieu et de sa justice qui est déjà présente dans l'histoire mais qui n'est pas encore pleinement réalisée et qui doit donc continuer d'être invoqué et recherché avec patience et courage. Comme chaque dimanche, Benoît XVI s'est exprimé en plusieurs langues, dont le français. On l'écoute.
Nous entrons aujourd'hui dans l'Avent, le temps liturgique de l'attente et de l'espérance du Christ, qui cette année se situe dans le contexte de l'année de la foi. Je vous invite donc à découvrir le lien profond entre les vérités et l'incarnation du Christ que nous professons dans le Credo et notre existence quotidienne. Dieu veut nous sauver en son Fils Jésus. Il s'est fait l'un de nous. Approfondissons de dimanche en dimanche le salut qui nous est offert pour le recevoir avec foi. Notre vie en sera transformée.
Et le pape a profité de ce rendez-vous avec les fidèles pour évoquer la célébration le 3 décembre d'une journée internationale pour les droits des personnes handicapées. Il a rappelé que toute personne a une valeur inestimable, même si elle souffre de graves limites physiques et psychiques. Benoît XVI a encouragé les communautés ecclésiales à se montrer accueillantes à l'égard de ces personnes. Il a exhorté les législateurs et les gouvernants à les protéger et à faciliter leur pleine participation à la vie de la société. Et après l'Angélus ce dimanche, Benoît XVI a évoqué la béatification à Kottar, en Inde, d'un laïc du XVIIIe siècle, Devasayam Pillai, mort en martyr. Le pape a invité les fidèles à s'unir à la joie de l'Église de ce grand pays et à prier pour que le nouveau bienheureux soutienne la foi des chrétiens indiens. C'est la première fois qu'un martyr indien laïc est proclamé bienheureux. Un événement d'une grande signification dans le contexte actuel. Marie Duhamel.
Devasayam Pillai, père de famille, officier au palais apprécié par le roi, est fusillé en 1752 dans l'état indien du Tamil Nadu. Il n'a que 40 ans. Pendant 3 ans, il a été incarcéré, torturé, y compris en public. Son seul tort, s'être converti de l'hindouisme au catholicisme. Il avait été baptisé 7 ans plus tôt par un missionnaire jésuite. Son exemple crée des émules. Sa dépouille jetée dans la forêt sera retrouvée par les chrétiens et inhumée devant l'autel de l'église Saint-François-Xavier. Pillai. 300 ans après sa naissance, Devasahayam Pillai a été béatifié dans son diocèse d'origine. La cérémonie a été présidée au nom du pape par le préfet de la Congrégation pour les causes des saints, le cardinal Amato, qui affirmait que le nouveau bienheureux avait écrit une des pages glorieuses du christianisme indien. Benoît XVI, qui avait approuvé en juin dernier le décret reconnaissant son martyr, espère qu'il soutiendra la foi des chrétiens, souvent mise à l'épreuve aujourd'hui en Inde. Des chrétiens qui subissent des discriminations et dont la liberté religieuse est limitée. Dans certains états comme l'Orissa, les attaques violentes contre les villages chrétiens ne sont pas rares de la part d'extrémistes hindous. Les attaques verbales haineuses sont également fréquentes dans les discours, surtout contre les missionnaires qui travaillent auprès des plus pauvres. Le nouveau bienheureux modèle de fermeté dans la foi et de persévérance rappelle que la liberté de conscience ne peut être bafouée.
Lors de leur assemblée en février dernier, les évêques indiens ont regretté l'entrée en vigueur ces dernières années d'une série de lois visant à interdire la conversion au christianisme. Selon le dernier rapport de l'association Aide à l'Église en détresse, en tête de la liste des pays les moins tolérants en matière de liberté religieuse dans le monde, se trouvent l'Arabie Saoudite, la Corée du Nord et le Pakistan. Dans des pays comme l'Érythrée, le travail pastoral et caritatif de l'Église est entravé par de multiples difficultés. Et au Nigeria, la secte islamiste Boko Haram continue de semer la terreur. Ce dimanche encore, 3 églises et des postes frontières ont été brûlés dans le nord-est du Nigeria par des hommes armés scandant « Allah Akbar ». Il y a 2 semaines, au même endroit, ont circulé des tracts islamistes imposant aux femmes de porter le hijab, la tenue islamique, et interdisant la vente de cigarettes et l'ouverture de lieux de rencontre, notamment les cafés. En cette année de la foi, l'Église catholique encourage la pratique du pèlerinage, notamment en Terre Sainte et à Rome. L'œuvre romaine des pèlerinages, l'ORP, institution rattachée au vicariat de Rome, se propose donc d'accueillir et d'accompagner les pèlerins du monde entier au travers de parcours catéchétiques et culturels dans la ville éternelle. Objectif, faire vivre pleinement l'année de la foi. L'ORP propose d'ailleurs bien d'autres initiatives. Écoutez Ilaria Dell'Armi de l'œuvre romaine des pèlerinages.
Les pèlerinages étaient encouragés par la Congrégation pour la doctrine de la foi dans une note avec des orientations pastorales. Comme Opera Romana Pellegrinaggi, nous efforçons d'offrir notre soutien technique et spirituel à ceux qui viendront à Rome et à tous les pèlerins décidés de faire un pèlerinage vers le lieu saint. Cette promenade en 4 étapes conduira les fidèles, selon l'invitation du pape, à redécouvrir le contenu de la foi, prier, méditer, célébrer, vécu et professer. Ces itinéraires se déroulent dans les différents quartiers de Rome, mais ils se retrouvent dans les 4e et dernière étape, la basilique de Saint-Pierre. Les itinéraires ont été conçus pour faciliter les déplacements aux pèlerins de marcher sous les chemins et d'approfondir la connaissance de ces dominants particuliers de la ville de Rome. Les pèlerins auront l'occasion aussi de découvrir au redécouvrir la beauté des lieux visités en signe et en témoigne de la foi de plusieurs générations de chrétiens qui ont vécu ou voyagé à Rome. Il y a plus de 20 églises dans les centres historiques impliqués dans ce chemin de la foi. Santa Maria Maggiore, San Giovanni Laterano, Piazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Trastevere, Saint-Pietro. Et pour plus d'informations, visitez les sites www.operaromanapellegrinaggi.org.
Des propos recueillis par Manuela à Fiji. Autorité politique et juridiction universelle, c'est le thème de la 27e assemblée plénière du Conseil pontifical Justice et Paix qui se déroulera du 3 au 5 décembre à Rome. Le débat portera sur l'idée controversée d'une autorité politique mondiale lancée par le dicaster en octobre 2011 à la veille du sommet du G20 à Cannes en vue d'une réforme du système financier et monétaire international. Une idée qui continue de susciter des réactions divergentes. La note de Justice et Paix avait provoqué un tollé il y a un an, mais le cardinal Turkson, président du dicaster, veut poursuivre la réflexion. Les évêques français achèvent leur visite à Limina à Rome. Elle avait débuté au mois de septembre. Et l'invité, ce dimanche, c'est le primat des Gaules, le cardinal Philippe Barbarin. L'archevêque de Lyon va nous expliquer dans cet entretien réalisé par Catherine Aubin comment il invite ses diocésains à la mission du 8 décembre prochain, fête de l'Immaculée Conception de Marie, traditionnellement la fête des Lumières. Comme c'est l'année de la foi, le thème choisi pour cette mission est tiré des paroles d'Élisabeth à la Vierge de la Visitation. Bienheureuse celle qui a cru. Le cardinal Barbarin nous fait aussi réfléchir sur ce que signifie être serviteur de la joie, comme Marie et avec Marie, et nous rappelle l'importance accordée par le pape à cette expression qu'il a reprise lors de sa première homélie en 2005.
Alors, serviteur de la joie, c'est une expression qui vient chez saint Paul. Et j'avais été frappé il y a assez longtemps, c'était le titre d'un livre du cardinal Ratzinger où il avait rassemblé ses causeries aux prêtres de Munich. Alors lui était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, on lui en voulait parce qu'il était le garant de la doctrine. Ce passage, je ne sais pas si vous le connaissez, je crois que c'est 2 Corinthiens 24 par là-bas. Il dit « Jamais je n'ai voulu régenter votre foi, j'ai tout simplement voulu être le serviteur de votre joie ». C'est-à-dire, quand je défends la doctrine, la vérité, l'enseignement de Jésus, le magistère de l'Église, c'est pour que les hommes soient mieux servis. C'est pour que la joie de Dieu atteigne, arrive dans les cœurs et que les portes soient ouvertes. Donc il faut tenir cela contre plein d'objections rationnelles que l'on comprend d'ailleurs. Jamais je n'ai voulu régenter votre foi, j'ai simplement voulu contribuer à votre joie, être le serviteur de votre joie. C'était le titre de ce livre. Et ici, à Rome, donc avril 2005, quand il est élu à la messe où il prend son ministère de Pierre, et ben cette phrase-là est venue en plein milieu de l'homélie. Alors là, j'ai été ébloui. Je me suis dit, ça ne doit pas être mineur dans sa tête. C'est pas seulement le titre d'un bouquin, c'est vraiment quelque chose qui est profond en lui. L'Église doit être une servante de la joie. Vous êtes des serviteurs de la joie de Dieu dans le cœur des autres, de la joie du cœur des hommes. On sait qu'il y a un trésor de joie à l'intérieur de l'Évangile et de la révélation chrétienne, et il faut que ça atteigne les cœurs. Et donc il faut qu'on se démène, qu'on soit assez intelligent, qu'on trouve la porte d'entrée, la manière de procéder, les moyens modernes d'ailleurs, enfin, de musique, de danse, de je sais pas trop quoi, pour arriver à ce que cette joie passe dans le cœur de tout le monde. Donc chaque année, il y a un très grand rendez-vous avec la Vierge Marie le 8 décembre. Donc le 8 décembre à 18h, tous les Lyonnais mettent 5-6 bougies à chacune de leurs fenêtres. À l'évêché, il y a 94 fenêtres, donc ça demande du temps et on se brûle le bout des doigts. Et puis on monte en procession de la cathédrale Saint-Jean, toute la colline de Fourvière, et on arrive à la basilique de Fourvière avec des paquets d'intentions de prière. Vous voyez, tout le monde est là, et après il y a une messe du vœu des Lyonnais. Et d'abord, vers 20h, il y a une messe des jeunes. Et pendant 4 jours, alors depuis une vingtaine d'années, la mairie a transformé ça en fête des Lumières. Du coup, nous nous sommes mis à ouvrir toutes les églises. On a recruté des gens qui ont accepté d'être des missionnaires du 8. Il y a 1200 personnes qui donnent 1, 2, 3 ou 4 de ces soirées de la fête des Lumières et qui sont dans les églises. Toutes les églises sont ouvertes jusqu'à minuit et parfois toute la nuit. Alors les gens qui viennent uniquement pour du tourisme, si vous voulez, photographie, chewing-gum, bah, les laissent. Mais n'empêche, tout le monde est invité. Il y en a plein qui demandent, qui sont très intéressés. Donc il y en a beaucoup qui demandent le baptême, il y en a beaucoup qui en profitent pour se confesser. Alors cette année, le thème que j'ai choisi, c'est en rapport avec l'année de la foi. Et je dis, mais regardez, après l'épisode de l'Annonciation, qui est notre évangile du 8 décembre, elle va voir Élisabeth dans la Visitation. Et à ce moment-là, Élisabeth lui dit, heureuse, toi qui as cru aux paroles qui t'ont été dites de la part du Seigneur. Et donc de dire aux jeunes, votre bonheur, ce sera de croire à cette parole, aux paroles qui t'ont été dites de la part du Seigneur. Donc on regarde l'évangile de l'Annonciation comme ça. Voilà l'ange qui arrive et qui lui dit une parole choc. La pauvre, elle est toute bouleversée à ce qu'elle entend. Elle dit, mais comment ça se fera parce que moi je suis vierge. Elle reçoit une réponse qui n'est pas une réponse parce qu'on lui dit, comment cela se fera-t-il parce que moi je suis vierge. Elle dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin. Elle comprend rien, c'est pas une réponse. C'est une réponse qui explique rien. Et puis tout d'un coup, l'ange lui dit « Mais tu sais, ta vieille parente Élisabeth, elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. » Alors là, tout le monde comprend, parce que le 6e mois, bah, c'est un ventre qui s'arrondit, c'est ma vieille cousine Élisabeth, un bébé incroyable. Pst, aussitôt, elle part. Donc j'aime beaucoup ce texte, parce qu'il a une vérité divine qui la dépasse complètement, et une vérité humaine et charnelle qui la concerne, et donc elle se précipite. Alors elle se rendit en hâte dans une ville de la montagne de Judée pour aller voir sa vieille parente Élisabeth. Elle entra, elle salue dans la maison de Zacharie, elle salue à Élisabeth. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'elle a dit. En revanche, on sait ce qu'a dit Élisabeth. Et là, il y a un trésor. Et ce trésor, heureuse es-tu, parce que le mot grec qui est là, C'est un mot très étonnant, rhéma, ça veut dire parole, ça veut dire aussi un acte, Dieu s'engage. Et c'est vrai que Dieu s'engage dans le corps de la Vierge Marie en lui donnant ce bébé. C'est aussi une promesse. Rhéma, c'est à la fois une promesse, une parole, une action, un engagement. Et la Vierge Marie, quand elle dit « que tout se passe pour moi selon ta parole », c'est bien. Mais ça n'a pas la même richesse que si on disait que tout se passe pour moi selon la promesse que tu viens de faire, selon cette action de Dieu que j'accueille et bien avec un oui total. J'aimerais bien faire entendre la richesse de cela pour montrer que c'est ça la foi. Dans l'année de la foi, ça veut dire que vous savez que Dieu s'engage dans votre vie par votre baptême, votre confirmation, leur dire au jeune, il veut faire de vous ses témoins. Laissez-le s'engager, dites oui à cet engagement de Dieu. Et vous, tout ce que vous faites, faites-le dans l'engagement de Dieu. L'engagement du chrétien, il est à l'intérieur, il est au-dedans de l'engagement de Dieu. Voilà, quel est notre projet pour cette fête du 8 décembre.
Philippe Barbarin, il y a aussi à Lyon les laboratoires de la foi. Qu'est-ce que c'est que ces laboratoires ?
C'est une idée que j'ai héritée, reçue de Jean-Paul II, donc à Tor Vergata en 2000. Je suis là au premier rang le samedi soir avec les évêques. J'arrivais 3-4 ans à Madagascar, je venais d'être nommé évêque de Moulins. Donc... Et tout d'un coup, j'entends le pape qui commentait Matthieu 16. « Pierre, qu'est-ce que disent les gens ? Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et alors le pape dit « Vous voyez comment Jésus, il travaille la foi de Pierre. » Après d'autres moments dans l'évangile, il travaille la foi de Thomas. Moi, c'est ce que je fais pendant les JMJ. Je travaille votre foi. On pourrait dire que les JMJ sont des laboratoires de la foi. Faites des laboratoires de la foi dans vos diocèses. Ah, et bien ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est pas une colonie de vacances ni un camp de jeunes, mais c'est très fraternel. Donc il y a des grandes balades, du sport, enfin ouais, beaucoup de jeux aussi. Et fondamentalement, c'est la foi, ça se travaille, mes chers amis. Donc il y a des cours peut-être, mais il y a surtout des questions qui se posent entre eux et on veut qu'ils les résolvent par eux-mêmes. Quand vous êtes attaqué à la fac par un prof, un copain, ou même dans votre famille, par un tonton incroyant et qui brocarde la foi, c'est malheureux que vous ne sachiez pas répondre. La foi, ça se travaille. Là-dessus, je me fonde sur le tout début de la première épître aux Thessaloniciens, que j'aime entre toutes, bien sûr, c'est le premier texte chrétien du monde. On le vénère, tout petit, magnifique. Et Paul est dans une joie exultante, parce qu'avec les Thessaloniciens, vous savez qu'à Thessalonique, il restait juste 3 mois. Et à Thessalonique, c'est un succès extraordinaire. Et alors, je rends grâce à Dieu, parce que vraiment, vous avez reçu ma parole pour ce qu'elle est, non pas une parole d'homme, mais une parole de Dieu. Mais au tout début, il dit ceci, il y a les 3 vertus théologales, et chacune des vertus théologales sont associées avec un autre substantif. C'est très éclairant. La charité, par exemple, il dit, la charité, ça se voit à la fatigue. Quelqu'un qui aime en parole et qui n'est pas capable de se fatiguer, il n'a pas d'amour. Comme des parents qui se lèvent 3 fois ou 4 fois dans la nuit pour leur gamin, comme quand on veille sur un vieillard malade de sa propre famille, comme on s'occupe des pauvres, c'est épuisant, ça ne s'arrête jamais. Et c'est là qu'on voit qu'il y a véritablement de l'amour. L'espérance, dit-il, ça se voit à upomone, c'est-à-dire la persévérance, la ténacité, tu tiens bon. C'est des ténèbres terribles, mais tu tiens bon. Et puis, le travail, à la fois c'est le travail. Ergon tespistir, je rends grâce à Dieu pour le travail de votre foi. En fait, la foi, ça se travaille. Si elle ne se travaille pas, elle ne se communique plus, elle est morte, elle est endormie, etc. Donc, le laboratoire de la foi, c'est superbe. Bien sûr, on vit une période un peu difficile dans l'Église de France aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a un beau réveil, une soif spirituelle incroyable. D'abord parce qu'aujourd'hui, ce monde est quand même desséchant, avec le bruit et le buzz, avec le diktat matériel, avec les angoisses d'une économie chancelante, avec une paix drôlement difficile à venir et toujours bien chahutée. Et là, on voit qu'il y a une véritable source d'eau vive et des quantités de gens qui n'en avaient jamais entendu parler et qui disent « Mais pourquoi on m'a jamais dit ça ?» Et ils viennent, donc je vois arriver auprès du Christ des gens tout à fait éloignés ou d'autres religions et qui disent « Mais attends, là c'est véritablement une source d'eau vive. » Et puis alors aussi l'attitude de la génération qui monte, elle est éprouvée, elle est très chahutée. Mais en même temps, elle n'est pas du tout contestataire. Et ils disent « On voit bien que ça va être dur d'être chrétien. Alors donnez-nous bien tout, expliquez-nous tout. » Un peu comme pour se blinder intérieurement et pour avoir à l'intérieur d'eux, c'est un mot de Saint Paul que j'aime beaucoup, la force, l'équipement. Le mot équipement, katartismos en grec, ça veut dire « Vous les apôtres, vous êtes chargés de donner à tous les baptisés l'équipement dont ils ont besoin pour tenir la course de montagne. » Je terminerai par un épisode assez joli de fiancés que je préparais au mariage. Et alors on parlait de leur jeunesse, du temps de leur préparation, un peu difficile pour l'un des deux, chaotique, mais de leur foi sérieuse. Et là, il y avait une différence entre les deux. Et à ce moment-là, le garçon, il dit « Moi, quand j'ai eu 15 ans, et que j'ai vu ce que c'était, je me suis dit « Ils mourront pas. » Et alors, ça c'est quelque chose de très joyeux, c'est-à-dire j'ai l'impression que chaque génération, Dieu lui donne l'énergie dont elle a besoin pour relever les défis et pour essayer d'être fidèle à Jésus. Voilà ma très grande joie.
Nous diffuserons dans une semaine la deuxième partie de cet entretien. Le cardinal Philippe Barbarin nous parlera de sa devise, qu'il soit un. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Bonne semaine à tous.